25 sur RTS1.
La première, monumentale.
Bonjour Madame Barbet.
Bonjour.
Je suis contente de vous entendre.
Non, on ne peut pas se voir, c'est dommage.
C'est dommage, il n'y a même pas de caméra, vous voyez.
Ça vaut mieux.
Ah, il y a des portes. Il y a des portes qui grincent. J'entends une radio derrière vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez dans votre casque, vous qui êtes en duplex, donc à Paris, moi à Lausanne? On va appeler Paris pour savoir ce qu'on entend derrière vous.
Oui, d'accord. Puis ça discute, hein. C'est du football ou quoi? ou politique, ou sport ou politique.
Alors j'ai Frédéric qui est en face de moi, qui vient d'appeler, le technicien qui est en face de vous.
Oui, je vois, il répond au téléphone.
Ah bah oui, j'ai pas coupé le micro, excusez-moi, bonne émission, je vous laisse.
Merci. Alors, nous allons partir pour ce grand voyage.
D'accord.
Je crois que c'est tout bon de notre côté, de votre côté. C'est parti, générique.
Monumental. Monumental, Joanne Ducé.
En nouvelle diffusion. Alix Barbet, bonjour.
Alors moi je vous réponds en latin valet. Et donc je me présente, je suis Alix Barbet, directrice de recherche honoraire au CNRS et expert pour le Conseil de l'Europe pour la formation au métier du patrimoine culturel et expert aussi à l'UNESCO pour l'ICOMOS à l'UNESCO. Voilà.
La première fois à Pompéi, souvenir, impression, c'était comment ?
Ah, écoutez, c'était au millénaire dernier, hein. C'était avant mai 68, j'étais étudiante. Et je vous dirais honnêtement que j'ai préféré Herculanum, qui était plus facile à appréhender pour un premier contact, parce que c'est plus petit, c'est mieux conservé dans certains cas. Et puis il y avait Stabie aussi. Et puis Pompéi, qu'il a fallu apprivoiser progressivement.
Et pourquoi apprivoiser ?
Parce que c'est grand, on se perd dedans. Il faut savoir se diriger, il faut savoir se faire ouvrir les maisons et puis marcher beaucoup. Parce que c'est une ville quand même qui fait 800 mètres de long, quasiment un kilomètre. Et il y a énormément, énormément de choses à voir.
Vous avez été impressionné par ce site ?
Ah oui, bien sûr. Mais j'avais déjà vu Rome, donc j'avais vu déjà des monuments bien conservé. Et évidemment, ce qui étonne à Pompéi, c'est pas seulement les monuments, c'est tout le reste. C'est un ensemble avec des rues, avec des boutiques, avec des maisons. Donc c'est totalement différent.
Le 24 août 79, le Vésuve entre en éruption. En 4 jours, la ville de Pompéi va être recouverte d'une couche de pierre et de cendres atteignant jusqu'à 7 mètres d'épaisseur. La cité romaine comptait alors 20 000 habitants. Environ 2 000 Pompéiens périrent au moment de cette catastrophe.
Comment était la ville avant la catastrophe ?
Alors, de quelle catastrophe parlez-vous ? Est-ce que c'est avant 79 de notre ère ? Est-ce que c'est avant 2010, avant l'écroulement de la Scola Armaturarum, la fameuse maison foyer militaire, ou bien même le tremblement de terre 1980 ?
C'est vrai qu'il y a eu plusieurs catastrophes autour de Pompéi.
Oui, Pompéi a subi des catastrophes successives. Donc je suppose que c'est 79. Alors écoutez, je pense que c'est une ville qui était déjà blessée parce qu'elle avait subi un tremblement de terre en 62 et il y avait plein de chantiers de reconstruction. Et d'ailleurs c'est tout à fait passionnant parce que c'est comme ça qu'on a retrouvé un chantier de peinture murale dans une maison et on a pu étudier les différentes étapes du décor. Et puis même le fait que les ouvriers avaient tout abandonné, leur petit pot de couleur, leur échelle, enfin tout était en place. C'est ça qui me frappe le plus, c'est cette espèce d'état de mort annoncée, d'instantané de mort. C'est ça qui est le plus frappant.
Des profondeurs de la Terre, des roches en fusion, le magma, sont remontées lentement vers la surface de la croûte terrestre. Un énorme bouchon de roc dans la cheminée du volcan bloque leur sortie. Inexorablement, en s'accumulant, le magma fait monter la pression. Les secousses telluriques deviennent de plus en plus fréquentes. L'enfer s'apprête à déferler sur le paradis.
Et alors là, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a deux copies de lettres de Pline le Jeune, qui était le neveu de Pline l'Ancien, un grand savant qui était un naturaliste, et qui, lui, était amiral, enfin commandant. Et alors, cette lettre commence de cette façon. Il se trouvait à Misène et commandait la flotte en personne. Le 9, avant les calendes, alors il y a un problème. Une copie dit les calendes de septembre, les calendes c'est le premier jour du mois, donc ça fait le 24 août. Et une autre copie de lettre dit le 9e jour avant les calendes de novembre, ce qui fait le 24 octobre. Alors il y a une grande discussion, les gens ne sont pas d'accord, ils avaient choisi la première date, et puis finalement on a revu absolument tout ce qui a été trouvé comme graines, des noix, des semences de chanvre par exemple, des noisettes, des figues, toutes sortes de choses qui ne sont généralement pas prêtes à la mi-août. On a remarqué que les dolias, c'est-à-dire les grands tonneaux en terre cuite qui contenaient le vin, étaient pleins et scellés, donc les vendanges avaient été faites. Heureusement, il y a même un autre argument qui est venu à l'appui de cette nouvelle date qui n'est pas acceptée par tout le monde. C'est une monnaie qui a été trouvée dans une maison, la maison du bracelet d'or, une monnaie de Titus qui mentionne la 15e acclamation pour Titus qui avait remplacé Vespasien le 23 juin 79. Or, on sait par des documents en Égypte notamment et en Espagne qu'il y avait des monnaies le 9 septembre, qui portait la 14e acclamation. Donc il est évident que la nouvelle date de l'éruption du Vésuve, c'est bien le 24 octobre 79. Alors là, dans cette lettre, on a une description de ce qui se passe. Par exemple, Pline l'Ancien, qui était en train de faire sa sieste, se lève, il monte pour voir le phénomène qu'on lui signale, et chose importante, on lui dit, on ne savait pas de quelle montagne elle sortait. Ensuite seulement, que c'était le Vésuve. Et alors il explique l'aspect et la forme d'un arbre qui faisait penser surtout à un pin, etc., etc. Et alors du coup, il décide de prendre un bateau pour aller voir ça de plus près. Et il ne veut pas arriver à aborder là où il voudrait parce que la mer s'est retirée. Il y a une espèce d'effet de tsunami. Et alors Pline le Jeune dit ce qu'il avait entrepris par amour de la science, il l'achève par héroïsme et Pline l'Ancien mourra le lendemain sur la plage de Stabie. Donc voilà, c'est une énorme catastrophe qui est une chance, entre guillemets, pour les archéologues, puisque ça a figé pour l'éternité un état d'une petite cité en 79 après Jésus-Christ.
Les habitants de Pompéi n'ont jamais vu ça. D'ailleurs, il n'existe pas de mot en latin pour désigner les volcans. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, beaucoup de ceux qui pourraient fuir restent.
Le mot volcan n'existe pas en latin. Alors, et en plus, la dernière éruption du Vésuve avait eu lieu 400 ans auparavant. Alors évidemment, on ne s'en souvenait pas. Et donc on ne savait pas dans quelle montagne ça arrivait. Et dans la deuxième lettre de Pline le Jeune, toujours à la même personne, à Tacite, qui voulait raconter ce qui s'était passé, il dit tout ce que les gens disent dans ces cas-là. Ils pensent que c'est la fin du monde, ils sont désespérés, ils pensent que les dieux se vengent, mais ils ne pensent absolument pas à un phénomène naturel.
Le nuage de cendres obscurcit complètement le ciel. Le jour est devenu la nuit. Mais le pire est encore à venir. Vers 1h de l'après-midi, ce 24 août de l'an 79 après Jésus-Christ, le Vésuve se réveille d'un long sommeil et entre en éruption. Bloqué depuis 1500 ans dans une sorte d'énorme marmite en fusion, le magma ne se change pas en lave, mais en un panache de cendres. Projetée à une vitesse incroyable, elle forme une colonne tourbillonnante qui s'élève de plus en plus haut dans le ciel. Propulsée très haut dans l'atmosphère, les cendres brûlantes se mélangent à l'air, se refroidissent, deviennent solides et commencent à retomber. Il a fallu près d'une demi-heure pour que la pluie de cendres atteigne Pompéi. Refroidi et combiné à l'air, le magma retombe en une multitude de pierres ponces. À la base du panache de fumée, une nouvelle vague de roches et de cendres explose. Elle écrase et brûle tout ce qui se trouve sur son passage en dévalant les pentes. À plus de 100 km/h, il ne faut que quelques minutes à cette coulée pour atteindre Pompéi. En 18 heures, le Vésuve a craché plus de 10 milliards de tonnes de pierres ponces, de roches et de cendres.
Et en quelques heures, Pompéi va complètement disparaître.
Ah oui, il faudra un peu plus que quelques heures, puisqu'on a notamment noté que plusieurs couches de lapilli et de cendres, et des gens qui sont morts, alors parfois dans la rue, parfois dans leur maison, parfois au-dessus de quelques couches déjà de lapilli qui étaient tombées. Donc le phénomène a pris un peu de temps, et c'est d'autant plus net qu'on a noté que des pilleurs ont essayé de rentrer dans les maisons pour voler des choses. Donc il a fallu un certain temps. Alors les géologues ont travaillé sur la question depuis quelque temps, et on sait désormais que la température est montée à 140 degrés à certains endroits de la ville et à 260 degrés à d'autres, ce qui est évidemment énorme.
Les victimes, elles seront nombreuses ?
Alors, on a compté les victimes, à savoir à peu près 1460. Et donc, bien sûr, on a fait une extrapolation, puisqu'il y a une partie de Pompéi qui n'est pas fouillée. Hein, il y a 2/5 de Pompéi pas fouillée. Donc, on a extrapolé en disant qu'il y avait à peu près 2000 personnes qui étaient mortes sur 12 000 habitants à peu près. Les chiffres varient. Hein. Parfois, on a prévu beaucoup plus d'habitants parce qu'on comptait le nombre de places dans l'amphithéâtre. Mais en réalité, ben, l'amphithéâtre accueillait des gens qui venaient d'ailleurs. Hein. Donc, on pense plutôt qu'il y avait 12 000 habitants. Alors quand même, 2 000 habitants, ça fait quand même un sixième de la population. C'est beaucoup.
En quelques heures, les maisons, les immeubles et les habitants sont ensevelis sous une épaisse couche de cendres et de débris volcaniques. Ils y resteront, oubliés et silencieux, pendant des siècles. Des archéologues ont découvert les cavités formées par les corps décomposés. Ils s'en sont servis comme moules afin de produire des plâtres des victimes. Les anciens habitants de Pompéi gisent maintenant ici, leurs corps tordus par l'agonie, à l'endroit précis où la mort les a emportés.
Monumental, aujourd'hui Pompéi, avec Alix Barbet, spécialiste des peintures murales romaines.
Quand on parle de Pompéi, il y a plusieurs images qui nous viennent à l'esprit, et notamment celle des corps des victimes.
Ah, alors ça, c'est évident. C'est d'ailleurs, quand on se promène à Pompéi, ce qui frappe le plus, notamment les Japonais qui n'entendent pas grand-chose à la mythologie et à cette civilisation qui est quand même loin de la leur. Ils sont absolument scotchés quand ils voient ces corps moulés un peu partout dans la ville. Parce que, évidemment, c'est là aussi quelque chose d'exceptionnel. Et ça, c'est une chose qui est arrivée assez tôt. C'est Fiorelli, le surintendant du 19e siècle, dans les années 1860, qui a eu l'idée d'abord de diviser Pompéi en régions, en îlots, etc., et de procéder à ces moulages. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Les gens qui ont été pris dans les cendres de l'éruption, les cendres se sont compactées autour des corps et ont pris l'empreinte des visages, des vêtements, comme le ferait le plâtre, en quelque sorte. Et puis, avec le temps, bien sûr, toutes les parties molles ont disparu. Et donc, il y a un interstice entre le squelette et ce moule de cendres durcies. Alors, on a eu l'idée de verser du plâtre et puis du ciment dans ces interstices, puis de casser le moule, et on a donc eu le squelette servant en fait d'armature, des moulages des gens qui étaient morts, alors avec cette chose extraordinaire, les traits du visage, la présence du nez, des lèvres, les vêtements, les attitudes. Alors, on a fait ça, bien sûr, pour les hommes, on a fait ça aussi pour les animaux. Il y a un célèbre chien attaché à la chaîne qui est mort, qui est complètement torturé. Et puis on l'a fait aussi pour les meubles, les portes, les armoires, les tables. Donc c'est extrêmement intéressant. Le seul problème, c'est que, évidemment, du coup, on ne pouvait pas procéder à une étude ostéologique, puisque les squelettes étaient enfermés dans cette gangue de plâtre et de ciment. Alors, on a eu l'idée récemment de remplacer cela par des polymères, ce qui permet l'étude ostéologique des squelettes, qui apprend énormément, énormément de choses sur les maladies, sur l'âge des gens, sur des tas d'éléments intéressants sur la population de l'époque.
By Eternel, François de Atlas Mountains.
Éprouver les lentes montées du danger, souvenirs en pente se laissent dévaler, en soufflant tout flanc, j'avale des cendres, nous sommes attisés, quand bien meurt, je t'aurai retrouvé. Terres opaques qui saisissent nos passés, nous reprennent. C'est comme s'ils cherchaient à se faire aimer. Ils te courent après, même si tu deviens sage, même si tu déménages. Moi de même, j'ai pris plusieurs années d'âge depuis que j'ai cloué les pages d'amour sur les paliers des chambres où il m'avait trouvé. Et j'avais cru tout virer, c'était sans compter sur les appartements où j'ai vécu, qui à leur tour m'habitent incessamment. Ce bail éternel, et ce bail éternel me coupe les ailes.
Aujourd'hui, Pompéi.
Pendant plus de 1500 ans, la ville resta ensevelie et oubliée de tous. Redécouverte par hasard à l'occasion d'un chantier, les fouilles ne commencèrent qu'au XVIIIe siècle. Les cendres ont formé une sorte de capsule temporelle au-dessus de la ville, préservant temples, maisons, boutiques et rues.
De quelle manière Pompéi va-t-elle être redécouverte ?
Alors, je crois que c'est par hasard.
Alix Barbet, spécialiste des peintures murales romaines.
Déjà, 10 ans auparavant, Herculanum avait été découverte, même un peu auparavant, on avait fait déjà des trouvailles, mais on avait commencé les fouilles en 1738 à Herculanum. Alors que Pompéi, ça va commencer en 1748 pour essayer de trouver des belles choses dont le roi de Naples faisait collection. Alors on a des déblaiements très importants.
Donc en fait, il y a des pilleurs, on peut dire ça comme ça ?
Ah, c'est pas des pilleurs, c'est des collectionneurs, on va dire.
Ils se servent.
Alors le roi de Naples se sert, bien entendu, et il fait aussi des cadeaux. C'est comme ça qu'il y a des peintures et d'autres objets qui ont été donnés au roi de France, à Napoléon. Alors, il y a aussi l'occupation française. Alors l'occupation française, c'est intéressant parce que c'est entre 1808 et 1815, sous l'impulsion de Joachim Murat, qui est devenu roi de Naples, et de la reine Caroline, qui est la sœur de Napoléon, on va reconstituer et fouiller le pourtour de la ville en suivant les remparts. Donc ça commence à être une fouille relativement moderne. Mais auparavant, c'était effectivement la chasse au trésor, qui était réservée au roi de Naples.
Quels bâtiments majeurs vont être révélés par les diverses fouilles qui sont un tout petit peu plus professionnelles au cours des années ?
Alors écoutez, jusque vers 1830, disons, c'est la totalité du forum et les édifices publics qui sont dégagés. On a la découverte de basiliques, de thermes, du théâtre, de l'amphithéâtre. Le fameux temple d'Apollon, qui est le plus ancien, qui date du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et Pompéi est intégré à ce qu'on appelle le Grand Tour, qui était une espèce de tourisme pour gens cultivés et fortunés, qui s'arrêtait donc à Pompéi.
La ville grouille d'une intense activité. Potiers, tonneliers, chaudronniers, vendeurs de tissus, tanneurs, cordonniers occupent le centre. Les boulangers y vendent le gros pain bourré de son et des mets plus raffinés comme des beignets croustillants enduits de miel ou des crêpes fines et transparentes. Les chariots brinquent-ballent sur les gros pavés des larges avenues et il n'est pas rare que les troupeaux traversent la cité. Les boutiques sont ouvertes la plus grande partie de la matinée, mais tous les jours, à 16h, les hommes se rendent au bain, au lieu de la vie municipale, puis certains d'entre eux se fixent rendez-vous dans les tavernes dont les comptoirs donnent sur la rue.
Mais Pompéi doit aussi sa célébrité à ses maisons, des maisons qui sont alignées le long de rues pavées.
C'est ça qui étonne d'ailleurs encore actuellement les gens quand ils viennent à Pompéi, c'est l'impression d'une ville moderne. Il y a des trottoirs, il y a des passages pour piétons avec des grosses pierres pour éviter de se mouiller les pieds. Ça, c'est une chose qui impressionne beaucoup les touristes. Alors, je crois que cette célébrité, c'est les maisons surtout, que l'on ne connaissait pas du tout avant Pompéi.
C'est-à-dire qu'avant Pompéi, on ne savait pas du tout comment étaient faites les constructions d'époque romaine.
On ne connaissait pas la vie quotidienne et on ne connaissait pas les maisons, on connaissait des monuments parce qu'ils étaient encore en place. Les Arcs de Triomphe à Rome, par exemple, ou même, il y en a aussi en Gaule, les amphithéâtres, les théâtres, celui d'Arles, de Nîmes pour la France, mais évidemment pour Rome, le Colisée. Mais on ne connaissait pas du tout les maisons. Donc on ignorait totalement à comment vivaient les gens, comment vivaient les Romains.
Une fois à l'intérieur des maisons, la recherche des biens personnels nous rapproche des gens qui y habitaient autrefois. Même les fresques et les mosaïques semblent animées d'une vie qui leur est propre. Dans la panique et la confusion suscitées par l'éruption volcanique, tout a été laissé intact. Partout, on trouve des objets de la vie quotidienne en parfait état. Même une miche de pain, carbonisée par la chaleur de l'explosion.
Comment sont-elles ces maisons ?
Alors, il y a une maison type, vraiment pour grands bourgeois, dirais-je, qui consiste à donner toute une série de pièces qui donnent sur des cours. Alors, la première cour, c'est l'atrium. Atrium avec des toitures qui sont dirigées vers un bassin qui permettent de récupérer l'eau. Et ça, c'est ce qui est très frappant. C'est l'organisation astucieuse des Romains et des Pompéiens pour ne pas perdre une goutte d'eau. Donc l'eau est récupérée dans des citernes. De même, il y a le péristyle, c'est-à-dire une grande cour entourée de colonnes avec un jardin sur lequel donnent les chambres à coucher qu'on appelle les cubiculas, le triclinium, là où il y a trois lits pour déjeuner. Et alors le raffinement, c'est d'avoir à la fois un triclinium d'été dehors, près d'un nymphée, près d'une fontaine qui déverse sa fraîcheur, et puis un triclinium d'hiver. Et puis il y a aussi d'autres pièces. Et puis alors comme ils ont l'esprit pratique, sur le devant de la maison, il y a souvent des boutiques, ce qui permet de rentabiliser certainement la maison. Et il y a aussi des étages. Alors c'est dans les étages, généralement, que logeaient éventuellement les esclaves. Donc ce sont des maisons qui ont une certaine superficie. Une des plus grandes, c'est la maison du Faune, qui occupe toute ce qu'on appelle une insula, c'est tout un îlot. Et puis, bien sûr, il y a aussi des petites maisons beaucoup plus petites.
Les grandes maisons, est-ce qu'on peut dire que ce sont des espèces de palais ?
Je ne dirais pas cela. De la Villa des Mystères, on pourrait dire que c'est comme une sorte de palais. Mais ce sont des grandes maisons bourgeoises. Alors évidemment, de temps en temps, lorsque le propriétaire est riche, il achète la maison d'à côté et il s'agrandit. Et on voit sa richesse au fait que devant la maison, il y a des bancs pour que les obligés du maître, c'est-à-dire ses clients, puissent s'asseoir en attendant d'être reçus le matin dans ce qu'on appelle le tablinum, la pièce au fond, le bureau du maître de maison qui donne sur l'atrium justement, et qui est donc un endroit de représentation. On voit très bien dans ces maisons qu'il y a une partie publique et puis une partie privée. Donc effectivement, ces maisons servaient à une double fonction, officielle pour le maître de maison et puis privée également. Alors, qu'est-ce qu'elles nous ont appris ? Eh bien, elles nous ont montré qu'il y avait une hiérarchie très claire dans la façon d'habiter ces maisons, qu'il y avait une recherche de luxe et de confort, parce que les maisons les plus grandes, par exemple, ont des bains, ont une cuisine, ont des latrines. Donc, tout le confort qui permet de vivre un peu en autarcie, en quelque sorte.
Pompéi, vous l'avez dit, a permis de connaître la vie quotidienne des Romains. C'est vrai que finalement, c'est un véritable panorama complet de la société, de la vie quotidienne de cette époque-là.
Ah oui, il y a énormément de boutiques. Il y a des tavernes. Alors, des tavernes, il y en a beaucoup. Alors, il y a évidemment un lupanar qui avait pignon sur rue. Mais il y a une recherche récente faite par les équipes françaises du centre Jean Bérard de Naples sur les boutiques et les commerces. Il y a par exemple une tannerie. On a fouillé une tannerie, on a fouillé une parfumerie. Donc on s'aperçoit qu'il y a une vie commerciale importante, puisque Pompéi est connue aussi pour son vin, et c'est un aspect qui est très frappant lorsqu'on se promène dans les rues de Pompéi. Alors pour donner une idée quand même, on a quand même 515 maisons sur 1435 édifices qui ont été explorés. Donc c'est quand même important, c'est un tiers.
La sexualité supposée débridée des Romains a beaucoup fait fantasmer. Les représentations sensuelles ou grivoises sont nombreuses dans les villas de Pompéi. En fait, le rapport que les hommes et les femmes entretiennent avec le sexe est totalement différent du nôtre. Les conclusions des archéologues ont souvent été faussées par leurs propres fantasmes.
On a appris aussi que la vie des Pompéiens était loin des clichés que l'on avait parfois sur eux.
Ah, je suppose que vous voulez parler de ce que l'on pense de la vie dissolue des Pompéiens. Mmh. Alors évidemment, ce qui a beaucoup frappé les gens, c'est de voir toutes ces peintures érotiques, notamment dans le fameux lupanar. Aussi, la présence du phallus, c'est-à-dire du sexe masculin dressé, que l'on a interprété évidemment de façon un peu légère, si je puis dire, parce qu'en fait, ce phallus, c'est un symbole important qui montre une protection. C'est au fond, c'est contre le mauvais œil. Et c'est en même temps un gage de prospérité et d'abondance. Donc on a biaisé la signification du phallus. Puis évidemment, il y a Priape, le dieu des jardins, qui est représenté en érection et qui lui aussi est un signe de la fécondité de la nature. Alors il y a cette fameuse peinture à l'entrée de la maison des Vétilles où on voit Priape en train de peser son sexe sur une balance et de l'autre côté il y a une grosse bourse pleine de monnaie. Et ça, c'est évidemment le symbole de la richesse apportée justement par la fécondité de la nature et la fécondité de l'homme. Alors, et d'ailleurs, cette peinture, elle est placée à droite de l'entrée, parce que bien sûr, les Pompéiens comme les Romains sont très superstitieux. Et quand on rentre dans une maison, on doit rentrer avec le pied droit. D'où la raison pour laquelle ce Priape est bien placé à droite.
La droite, c'est important parce qu'ils mangent aussi avec la main droite. Ils prennent les aliments avec la main droite.
Absolument. La main gauche servant à des occupations beaucoup plus matérielles. Puis en plus, le mot gauche, c'est sinistra qui a donné le mot sinistre en français.
Donc la droite, c'est mieux.
Ah, nettement mieux. Mais ne faites pas dire ça pour toute la vie politique de l'époque romaine.
Bien sûr. Tout de suite sur la première, des nouvelles de la route.
Infotrafic RTS.
Soyez très prudents si vous circulez sur l'A9 Martigny-Vevey. On signale un chien sur l'autoroute entre Villeneuve et le tunnel de Glion.
La première, monumentale.
On a parlé des fresques, Alix Barbet. Il y a d'autres fresques qui sont intéressantes. Il y a des mosaïques aussi, des sculptures.
Bien entendu. Et puis il y a aussi les graffitis qui endommagent ces peintures et qui sont extrêmement importants. Alors, si vous voulez, en ce qui concerne les fresques, c'est une technique particulière, ça vient de l'italien affresco, qui veut dire à frais, c'est-à-dire sur un mortier encore humide. Donc il fallait être extrêmement rapide, il fallait être en équipe. Et ça, on le voit très bien justement sur ces fameuses peintures qui n'ont pas été terminées au moment des ruptures du Vésuve. Et le goût a évolué au cours du temps. Au début, au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains imitent ce que les Grecs avaient fait avec du stuc en relief pour imiter un beau mur construit avec des blocs d'appareils réguliers, des grandes dalles. On imite le marbre, donc pour donner l'apparence de quelque chose de plus riche. Le deuxième style qui est au 1er siècle avant, jusque vers 20 avant, alors c'est une architecture en trompe-l'œil, solide, mais mise sur un fond plat. Et là, il y a des choses tout à fait extraordinaires, notamment dans la Villa des Mystères, si on veut parler d'un endroit précis. Et puis après, il y a une réaction. Avec l'arrivée d'Auguste vers la fin du 1er siècle, on aime les choses miniatures, comme on a aimé en France l'art sous Louis XV ou Louis XVI par rapport à Louis XIV, qui était le grand siècle. Alors là, on a des peintures extrêmement fines, des motifs broderies. Et puis après, il y a une réaction, on revient au goût de l'architecture et avec des compositions théâtrales tout à fait extraordinaires, des constructions qui ne tiennent pas debout, et qui d'ailleurs font un effet tout à fait extraordinaire avec des personnages qui sortent de construction avec des dais, des portes. C'est l'exemple par exemple de la maison des Vétis, tout à fait exceptionnel. Donc je crois que ce qui est important, c'est que les peintures revêtaient tous les murs, de toute façon c'était le revêtement obligé, avec différentes évidemment techniques. Alors on a aussi un style très populaire pour les tavernes, pour les devantures de boutiques. Il y avait au fond des peintures de publicité devant les maisons. C'est ce qui est assez extraordinaire.
Ecco, proprio qui.
Ici, nous sommes dans le hall d'entrée de cette superbe demeure. Et il y a ici un message de bienvenue que tout le monde peut lire. Regardons cela de plus près.
A chi pe cubos dedite cum coros.
Cela signifie « Rappelle-toi de la danse que tu m'as accordée ». C'est un message adressé à la personne avec qui l'auteur du message a dansé. Il y a d'autres types de messages, comme des lettres d'amour. Un homme, par exemple, a une passion pour une femme et laisse un mot sur le mur pour lui demander un rendez-vous. C'est une très belle coutume, car parfois la femme utilise le même moyen pour répondre. Elles écrivaient la réponse sur ces mêmes murs d'entrée, oui ou non. Et dans la plupart des cas, peut-être. C'est certainement la chose la plus belle concernant ces témoignages, ces graffitis. Ils nous parlent de la vie quotidienne de ces gens. Et leur voix parvient jusqu'à nous à travers 2000 ans d'histoire, grâce à ces murs.
Vous l'avez dit, Alix Barbet, les Romains écrivaient sur les murs. Ah, c'est oui. Vrai qu'on a trouvé de nombreux graffitis à Pompéi.
Alors voilà, alors c'est ça qui est très intéressant, hein, parce que il y en a aussi à Herculanum, et il y en a aussi ailleurs dans d'autres villes, mais alors là, il y en a une quantité absolument extraordinaire. Et alors, il y a toutes sortes de registres. Hein. On a d'abord des menaces. Alors par exemple, Cacator redoute le châtiment. Ou alors on dit à un cabaretier de faire attention à lui parce qu'il fraude en mettant de l'eau dans son vin. Il y en a un autre qui dit « il n'y a pas de place pour les oisifs, toi qui voudrais t'arrêter ». Autrement dit, il y a des gens, des sans-abri, je ne sais pas, qui s'arrêtaient devant les maisons et on les chassait. Et puis, évidemment, il y a aussi une grande abondance de représentations de scènes de gladiature. Et ça, c'est très frappant. Alors, on a le nom des gens, celui qui a gagné. Alors par exemple, il y a un certain Océanus qui avait 13 victoires, qui se bat contre Aracintus qui n'en a que 4, et le pauvre Aracintus est battu. Et il va être condamné au bestiaire, c'est-à-dire à être livré aux bêtes sauvages. Alors là, il y en a des quantités extraordinaires, ce qui nous a permis d'ailleurs de voir bien comment étaient armés ces gladiateurs. C'était un succès extraordinaire. Hein. Et ça me rappelle un peu ce qu'on a vu lors du mondial de football gagné par la France. Eh bien, dans le métro, il y avait des graffitis ou des tags qui glorifiaient l'équipe française. Alors là, il y a ça qui touche bien sûr nos contemporains parce que c'est très caractéristique des gens qui interviennent comme ça sur les murs. Alors il y a aussi des blagues. Il y en a un qui écrit « Ô muraille, je suis surpris que tu ne sois pas encore écroulé sous le poids des insanités dont on te couvre. Hein » Et puis alors il y en a un autre, alors ça c'est très drôle. « Nous avions très envie de venir ici et nous sommes encore plus contents de repartir. Mais nous avons été arrêtés par une jolie fille. » Alors, ça, c'est amusant parce que ça se répète deux fois. Il y en a à Herculanum, il y a à Pompéi, et il y en a même en Gaule, à Narbonne. On le sait parce que nous avons fait une superbe exposition au musée de Vidy-Lausanne il y a quelques années, qui était intitulée « Les murs murmurent » sur, justement, les graffitis de la Gaule. Et on s'en rend compte que les blagues circulaient d'une province romaine à une autre. Alors, bien entendu, il y a aussi les gens qui écrivent leurs contes, hein, comme si c'était une ardoise. Il y a des dessins, il y a des vantardises amoureux, alors là, il y en a plein. Hein. Et puis, il y a même des gamins qui écrivent leur abécédaire. Et puis, alors il y en a de très charmantes. Par exemple, des poésies. Il y en a un qui écrit « Personne n'est beau s'il n'est aimé ». D'autres qui écrivent des vers de Virgile. Et puis alors, il y a celui-là dans la maison des amants qui est très beau aussi. « Les amants sont semblables aux abeilles. Ils aspirent à une vie aussi douce que le miel. » Alors il y a un imbécile qui a mis un commentaire en disant que c'était pas vrai, bien sûr. Et puis alors il y a à côté de ça, il y a aussi les affiches électorales. Alors ça c'est unique, parce que si vous voulez, les graffitis on en a dans d'autres villes romaines, hein, mais des affiches électorales, là, on en a qu'à Pompéi et Herculanum. Alors on a notamment pour un certain Caius Julius Polybius, le commentaire, il faut voter pour lui parce qu'il donne du bon pain. Bonhomme panem fert. Alors pourquoi donne-t-il du bon pain? Ça veut dire qu'au lieu de donner du pain gris pour les esclaves, qui n'est pas bon, eh bien il donne du bon pain blanc. Donc c'était très très caractéristique de la vie quotidienne. Et c'est ça qui évidemment intéresse beaucoup actuellement, de voir comment la mentalité de ces gens à cette époque.
Alix Barbet, peut-on dire que ces maisons qui étaient décorées de manière théâtrale peut-être, avec notre oui. regard d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les Romains avaient le goût du spectacle?
Ah oui, c'est évident. Regardez les théâtres, l'amphithéâtre, le développement du mime. Ils mettent des masques de théâtre partout dans leurs décorations. Ils déclament, regardez le succès d'un Cicéron, des avocats. Le goût du spectacle est évident, sans parler de tous les types de combats qu'ils ont inventés, les combats contre les bêtes sauvages, entre hommes, les gladiateurs, même des combats nautiques. Enfin, il y a énormément de choses. Et d'ailleurs, ça s'était résumé par cette formule « Panem et circenses », du pain et des jeux. Voilà ce qui nourrit la plèbe romaine.
Bess Gibbons.
God knows how I adore life. When the wind turns on the shore lies another day. I cannot ask for more. When the time bell blows my heart and I have scored a better day. Nobody made this war of mine, and the moments that I enjoy, a place of love and mystery, I'll be there anytime. Oh, mysteries of love, where war is no more. Thank you.
Monumental, aujourd'hui Pompéi, avec Alix Barbet, spécialiste des peintures murales romaines.
Dernièrement, le grand projet Pompéi a été lancé officiellement. Alors, c'est un projet qui est doté de 105 millions d'euros. C'est une bonne nouvelle pour le site archéologique.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce grand projet Pompéi est subventionné pour une grande part par, évidemment, l'Europe. Et l'UNESCO a poussé évidemment pour cela, puisque Pompéi, comme Herculanum et puis un autre site qui s'appelle Oplantis, sont sites UNESCO, mais depuis très peu de temps, en fait, depuis 1997. Donc ce n'est pas depuis très longtemps. Le problème, c'est qu'il y a 105 millions d'euros qui doivent être dépensés en 3 ans, ce qui est très court et qui demande évidemment une organisation imparable.
Mais il était temps parce que les vestiges de Pompéi ont été longtemps négligés.
Alors, je ne dirais pas qu'ils ont été longtemps négligés. Disons qu'au début, au 19e siècle, au 18e et au 19e siècle, on prenait tout ce qui était intéressant et on laissait les ruines en l'état. Donc elles se sont dégradées au fil du temps. Puis ensuite, il y a eu une prise de conscience, notamment avec un surintendant qui a duré très longtemps, qui était Amedeo Maiuri, qui a régné, pourrait-on dire, de 1924 à 1961, qui a fait une politique de conservation et de mise en valeur de ce patrimoine. Seulement, le problème, c'est qu'on a utilisé, par exemple, du béton armé. Or, le béton armé vieillit mal, la ferraille joue avec l'humidité, avec l'hygrométrie et la température, et a fait éclater tout ce qui avait été fait en béton armé. Alors donc, ça s'est dégradé depuis les années 60. Il a fallu procéder à des restaurations. Seulement, comme pour une maison privée, si vous ne faites pas le nécessaire, votre maison se dégrade très vite. Une maison, en France, elle ne dure rarement plus d'un siècle, sauf si elle est entretenue. Or, je vous le rappelle, il y a 515 maisons à Pompéi. Et arriver à restaurer à la fois les peintures, les mosaïques, le drainage des eaux, c'est quelque chose de compliqué. Et puis, effectivement, il y a eu des négligences, mais surtout des restaurations qui étaient inappropriées.
C'est vrai que le monde a été ému quand même quand il y a eu l'effondrement des murs de la maison des gladiateurs ou dans celle du moraliste. C'était en 2010.
Voilà, exactement. Alors, ce n'est pas la maison des gladiateurs, c'est donc la Scola Armaturarum, qui est un foyer militaire, parce qu'il existe une autre maison qui s'appelle maison des gladiateurs. Mais ça, c'est une erreur factuelle qui n'est pas très grave, si ce n'est que cette maison était à l'endroit qui est non fouillé de Pompéi et qui est donc surplombé par 6 mètres de déblais. Et le problème, c'est qu'on a enfin compris qu'il fallait absolument drainer les eaux de toute cette partie non fouillée de Pompéi parce que l'eau redescendait avec la pente et donc sapait les fondations de ces maisons qui avaient été explorées le long de cette partie non fouillée. Et c'est ce qui explique ces effondrements en chaîne de la maison donc, du moraliste et d'autres qui sont survenus depuis. Si vous voulez, c'est le problème des restaurations trop anciennes qui n'ont pas été révisées et puis cette faute sur le drainage des eaux de Pompéi. Alors, et puis il y a eu d'autres bêtises, évidemment. Mais pour vous donner une idée, en 1956, on pouvait visiter 66 maisons. Et en 98, on en pouvait en visiter 16. Et maintenant, il y a à peine 10 qui sont ouvertes par jour. Donc, il y a un vrai problème de mise en valeur et de restauration de toutes ces maisons.
Puis, il y a eu des grosses bêtises. Je pense au Théâtre Antique, où une entreprise a carrément coulé du ciment sur les gradins, la Seine.
Je trouve que vous êtes très gentille en parlant de bêtises. Oui. Parce qu'en réalité, c'est une énorme erreur qui a été faite en nommant un commissaire extraordinaire pour gérer Pompéi, qui n'était pas un archéologue et qui a laissé faire des choses qui étaient absolument inappropriées, comme justement cette bétonisation du théâtre antique, avec en plus des loges qui avaient été installées, puisqu'on voulait le transformer en lieu de spectacle régulier. Or, il n'y a pas eu de spectacle régulier. Alors, c'est le problème de ces initiatives qui ont été faites récemment, notamment d'autres bâtiments qui ont été construits à ce moment-là, donc il y a une dizaine d'années.
Mais cette personne-là, elle va être poursuivie.
Absolument, elle et d'autres personnes sont soumises à une poursuite judiciaire.
Mais parce qu'il y a la mafia napolitaine tout de même qui rôde. On ne peut pas ne pas en parler.
Bien entendu, parce que si vous voulez, il y a des bâtiments qui ont été construits qui sont sous séquestre. Et ça, la presse l'a dit, donc on peut le dire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des financements douteux, parce que les bâtiments n'étaient pas aux normes, notamment antivolcaniques, antisismiques, etc. Donc il y a eu de l'argent dépensé pour des bâtiments qui sont construits et qui ne servent à rien, et que, dont certains vont être détruits. Donc là, il y a eu un gâchis qui est évident. Et il faut penser à une chose, c'est que Pompéi accueille beaucoup trop de touristes pour sa capacité. Il y a 3 millions de touristes par an. Donc vous imaginez l'érosion touristique possible et le fait qu'il faut prendre en compte cet élément dans la préservation de ce patrimoine.
Mais le grand projet Pompéi assure qu'il y aura des contrôles et que tout va être fait maintenant dans les règles de l'art.
Et nous espérons, bien entendu. Je pense que c'est quelque chose qui est important et qui va être mis sous la loupe. Et notamment, je pense que l'UNESCO prendra ses responsabilités pour surveiller ce genre de choses, évidemment.
Pompéi fascine toujours. Il y a une grande expo qui est à voir en ce moment au British Museum. Il y a un long métrage qui est en préparation. À votre avis, Alex Barbet, pourquoi est-ce que la cité antique a une place à part dans l'histoire ?
Ah, mais écoutez, d'abord, Pompéi, c'est une découverte théâtrale. Trouver des bâtiments entièrement conservés, des squelettes, des gens. Il y a eu un engouement pour l'antique très précoce, dès la découverte, dès avant la fin du XVIIIe siècle. Et on a, par exemple, une mode qui est née, qu'on appelle le néo-pompéien. Par exemple, Napoléon Bonaparte s'est fait construire du mobilier à l'antique, par exemple. Et puis, je pense qu'il a impressionné beaucoup les gens, c'est ce destin tragique également. C'est en 1834 que, par exemple, est écrit « Les derniers jours de Pompéi ». Et qui a été représenté à la télévision, qui a donné lieu à toutes sortes de films extrêmement importants. Et puis, on s'est mis donc à imiter Pompéi. Un des derniers en date, c'est par exemple le musée Getty à Los Angeles, qui copie la Villa des Papyrus d'Herculanum. Donc, ça fait marcher l'imaginaire, ça, c'est un destin tragique, c'est romantique. Et puis quand même, pour les scientifiques, c'est évidemment une source incomparable de renseignements et de documents.
Donc on peut dire que ce drame, ça a été une bénédiction pour les archéologues, mais aussi pour les artistes.
On peut le dire de cette façon, je crois que les artistes se sont beaucoup inspirés de Pompéi dans tous les arts, hein, dans le mobilier, dans la peinture, dans la sculpture, pendant presque un siècle.
Après avoir déversé sa colère, le Vésuve va aujourd'hui retrouver son calme. Il se dresse comme une sentinelle, surplombant le paysage. À ses pieds gisent les ruines du patrimoine romain, qui recèlent encore de nombreux mystères.
Il y a encore passablement de choses à apprendre de ce site.
Ah, je pense que oui, parce que d'autres techniques d'études maintenant, grâce à certains outils modernes, par exemple les études ostéologiques qui sont extrêmement intéressantes. Il y a également l'étude des pollens, l'étude des jardins. On les avait négligés parce que dans les jardins on se disait il n'y a rien, donc on y allait à la pelleteuse, enfin pas à la pelleteuse, mais on y allait à la pioche. Et on a pu redécouvrir tout le paysage, les cultures de l'époque romaine. Donc il y a des tas de domaines qui peuvent être enrichis et c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs le reste de Pompéi est gelé. On ne fouille plus à Pompéi étant donné qu'il faut laisser pour les générations futures de quoi explorer avec des techniques qui seront non destructives par exemple.
Ça veut dire que finalement c'est vrai que les techniques vont évoluer.
Elles ont déjà évolué.
Elles l'ont déjà passablement fait, effectivement, mais ça veut dire que les futurs archéologues auront des bouts vierges.
J'espère pour eux. Et puis, ils pourront peut-être même pas avoir besoin de fouiller, étant donné toutes les techniques que l'on peut utiliser, électriques et différentes, pour repérer sous le sol les vestiges, de toute façon, et faire que des prélèvements homéopathiques, si je puis dire.
On a parlé un tout petit peu d'Herculanum, mais ça pourrait être l'objet d'une prochaine émission, vous êtes d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Absolument, surtout qu'Herculanum, c'est le site qui a été le premier fouillé en 1738 et qui a eu la chance, entre guillemets, d'être immédiatement envahi par les boues, par la pluie. Donc tout le matériel ligneux s'est conservé, ce qui n'est pas le cas à Pompéi.
C'est un site extrêmement bien préservé.
Extrêmement bien préservé, beaucoup plus d'épaisseur, sous 26 mètres de lapilli et de cendres.
Vous reviendrez alors?
Peut-être. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'évidemment, Pompéi avait un nom. On n'a pas parlé de son nom, parce que Pompéi, ça s'appelait Civita. Donc il y avait l'idée d'une cité. Mais en réalité, son nom, c'était Colonia Veneria Cornelia Pompeianorum. On l'a vu d'après des inscriptions. Colonia, parce que c'est une colonie romaine qui a été fondée par Cornelius Sylla, et elle était dédiée à Vénus, Veneria. Donc, cela justifie évidemment la représentation très fréquente que nous avons de Vénus dans cette ville tout à fait extraordinaire.
Dans quelques instants, les informations. Auparavant, un détour par les routes.
Infotrafic RTS.
Soyez très prudents si vous circulez sur l'A9 Martigny-Vevey. On signale toujours un chien sur l'autoroute entre Villeneuve et le tunnel de Glion. Sur la route principale reliant Fribourg à Yverdon, le trafic est perturbé entre Payerne et Bussy, et ceci jusqu'aux alentours de 18h. Le trafic pendulaire provoque des ralentissements sur le contournement de Genève entre Mérin et le tunnel de Vernier, ainsi qu'entre l'échangeur de Perly et la douane de Bardenay en direction de la France. Et un accident provoque aussi la fermeture de la route principale de Léman-Bâle dans les deux sens entre le tunnel du Eggflou et Angenstein. Une déviation est en place, mais la réouverture n'est pas prévue avant 21h.
Infotrafic RTS en collaboration avec les CFF et le TCS.
Monumental, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau numéro. Dans quelques minutes, rendez-vous avec Vertigo.
La première vous offre l'heure.
Vous êtes sur la première, il est 17h. Bonjour à tous, bienvenue dans Vertigo. Nous sommes ensemble.